Révolution médicale, René Friedman reçoit aujourd'hui le docteur Éric Chesson et le professeur Henri-Jean Philippe pour parler de l'aide médicale à l'extérieur de la France, médecine humanitaire ou pas, nous y reviendrons. Éric Chesson, vous êtes chef de service de vasculaire et thoracique à Pontoise et vous êtes surtout connu pour la présidence de la chaîne de l'espoir, qui est une chaîne sur laquelle vous allez nous décrire ces actions. Et vous envoyez là, par votre intermédiaire, une sage-femme, un gynécologue, accoucheur à Kaboul. Pourquoi ?
D'abord, bonjour. Pourquoi c'est un gynécologue et une sage-femme à Kaboul? C'est pas un non-événement. Ça veut dire que dans le cadre de l'hôpital français de Kaboul, nous allons commencer la deuxième phase, c'est-à-dire la gynéco-obstétrique. Et donc, nous allons commencer la construction dans les semaines qui viennent d'une maternité. Vous savez que la condition de la femme en Afghanistan est absolument dramatique. Envoyer une sage-femme et un gynéco à Kaboul, c'est un événement car s'occuper de la femme en Afghanistan, c'est de multiples problèmes, c'est des problèmes médicaux, c'est des problèmes d'éthique, c'est des problèmes culturels.
Nous y reviendrons, ça change un peu de votre action dans la chaîne de l'espoir, où vous occupiez surtout du stade d'après, c'est-à-dire des enfants malades et particulièrement malades du cœur.
Oui, tout à fait. Et bien sûr, on s'occupait de l'enfant, mais la situation était telle en Afghanistan lorsque je suis revenu en 2001 que, vous savez, comme un commandant de navire, on a dit on va s'occuper de la femme et de l'enfant. On a commencé par l'enfant et il nous semblait logique, s'occupant de l'enfant, d'arriver à la femme. Je vous rappelle que l'espérance de la vie de la femme en Afghanistan est de 47 ans et que le plus grand risque pour une femme en Afghanistan, c'est l'accouchement.
Professeur Henri-Jean Philippe, vous êtes chef de service de la maternité du pôle, d'ailleurs mère-enfant, je dirais, à Nantes. Et vous êtes président de Gynécologie sans frontières et président aussi de la commission humanitaire du collège. Et vous avez une équipe de par le monde, on va y revenir, et surtout là, tout récemment, le camp de réfugiés syriens en Jordanie, où vous avez une mission.
Oui. Oui, bonjour également. Et nous sommes partis il y a maintenant presque un mois dans les camps de réfugiés de Jordanie à Za'atari. C'est un camp de réfugiés où la population est essentiellement féminine. Et donc il y a tous les problèmes des camps de réfugiés concernant la santé des femmes. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui sont dans une grande partie sont enceintes, donc d'obstétrique, d'urgence, et puis malheureusement d'agressions sexuelles.
Donc nous allons revenir un peu dans le détail, mais nous voilà donc au cœur de deux actions contemporaines, actuelles, un peu particulières, puisqu'il s'agit effectivement de maternité, de gynécologie, qui n'était pas, je dirais, en première ligne, en tous les cas aussi flagrante, mais nous sommes dans l'aide médicale, médecine humanitaire, on peut revenir sur cette définition, et peut-être de voir un petit peu l'historique. L'historique, c'est, je dirais, surtout l'histoire du Biafra en 68, où il y a un premier groupe de médecins français, ce qui va être ensuite les fameux French Doctors dont vous êtes les héritiers, quelque part, avec Bernard Kouchner, avec Max Récamier, avec Radoman, qui vont essayer donc d'intervenir en gardant, d'une part, de traiter une idée forte, je traite tout le monde, tous les gens qui se présentent, je les soigne, mais d'autre part, je témoigne. Donc c'est quelque chose qui va commencer à changer un peu de ce qui avait été créé par la Croix-Rouge, c'est-à-dire quelque chose qui était aussi, bien sûr, un apport médical à tout combattant, quel qu'il soit, mais qui n'avait pas pour mission de témoigner, d'être inscrit dans une médiatisation qui, aujourd'hui, bien sûr, est beaucoup plus grande. Alors, beaucoup de questions sur ces actions. Est-ce que ça maintient, est-ce que ça police la guerre lorsqu'il y a une guerre? Est-ce que ça maintient en état de chronicité une demande médicale? Est-ce que, comment faire pour passer le relais? Il y a eu, dans les années 70, je dirais, quelque chose qui était une tentative d'organisation, ça balbutiait. C'était le GIMQ qui avait été créé, c'est-à-dire un groupe d'intervention médico-chirurgicale d'urgence. Alors, il se trouve que, voilà, le privilège de l'âge, j'y étais. Et on était le journal Tonus, qui était d'ailleurs, ouvrait ses portes et ses bureaux. C'était un journal qui était financé par un laboratoire américain, Winthrop, et qui voulait donc aider à cette médecine qui va devenir ce qu'on appelle la médecine humanitaire. En fait, Médecins sans frontières va se créer en tant qu'organisation en décembre 71, alors qu'auparavant, il y avait déjà eu quelques catastrophes. On était sur la médecine de catastrophe, c'est-à-dire tremblement de terre au Pérou, septembre noir en Jordanie, où il y a un certain nombre de médecins qui partent hors organisation, dont j'étais d'ailleurs. Et puis, nous arrivons donc à la création de Médecins sans frontières. Alors, vous, Éric Chesson, vous n'étiez pas à la création de Médecins sans frontières parce que votre âge ne vous le permettait pas, bien que brillant et dynamique. Mais par contre, vous avez assisté aux différentes soubresauts et créations et développements de cette médecine dite humanitaire.
Oui, tout à fait. J'étais interne, 23, 24, 25 ans. Et moi, je suis intervenu à Médecins sans frontières au moment du drame des Boat People. Alors peut-être que beaucoup de vos auditeurs ne se souviennent pas, mais c'est cette migration absolument et cette fuite des Vietnamiens par voie de mer pour atteindre les côtes thaïlandaises, malaises et pour suivre le régime communiste sur des frêles embarcations. Et à ce moment-là, c'est là où a eu le deuxième grand schisme, c'est-à-dire Bernard Kouchner. Et peut-être qu'il serait important de revenir sur le rôle de précurseur que vous avez eu et qu'a eu Bernard Kouchner. Bernard Kouchner a voulu faire un bateau pour aller en mer de Chine, qui s'appelait l'île de Lumière, et c'est là où il y a eu la grande séparation de Médecins sans frontières et la création d'un comité Un bateau pour le Vietnam avec Raymond Aron, Jean-Paul Sartre et
oui, il y a là, eu beaucoup de soutien médiatique.
Oui, hein, et c'est le grand reproche qu'on avait fait à Bernard Kouchner, c'était un bateau pour Saint-Germain-des-Prés. Mais il faut dire que ce bateau, non seulement a sauvé des milliers de boat people...
Vous y avez été.
J'y étais à de multiples reprises, et j'étais de la première mission, arrivant sur Pulau Bidong, ce petit îlot perdu en mer de Chine, avec 40 000 réfugiés vietnamiens dans des conditions abominables. Et donc, si vous voulez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement ça a soigné, mais ça a été la révélation au monde de ce drame, et la lutte pour avoir des visas pour accueillir ces boat people, et ça a été le début de ce couple médecin-journaliste qui a pris sa naissance au moment du drame des Boat People, qui déjà avait montré le bout de son nez au moment du Biafra, et ensuite, qui a été vraiment extrêmement important, c'est au moment de la première mission en Afghanistan que j'ai faite dans les années 80, et qui a été, vis-à-vis des Mujahideens, les French Doctors, avec le titre du Times, ces maudits French Doctors, et l'association des médecins et des journalistes, et on a révélé tout ce qui se passait. Et ça a été la création de Médecins du Monde dans les années 80.
Alors, pour revenir juste un petit peu en arrière, en 72, il y a le tremblement de terre à Managua, et là, il y a 10 médecins qui partent, dont moi-même, avec Bernard Kouchner et les autres, et en fait, on arrive 4 jours après. C'est-à-dire que la difficulté de l'intervention, il fallait déjà qu'il y ait une association avec l'armée française qui nous portait, hein, mais ça, on arrive, pour un tremblement de terre, arriver 4 jours après, c'est-à-dire que les dégâts sont déjà faits, et on va avoir les séquelles, bien sûr, à traiter. Alors, il y a beaucoup de critiques qui se font justement sur ces médecins qui partent sans infrastructure ou trop tardivement, et on disait des frimeurs, des refoulés, des charlatans de l'humanitaire,
des boy scouts, des gauchistes,
voilà, des candidats en psychanalyse ou en rupture de ménage, et qui allaient trouver une raison pour eux-mêmes. Et puis on rentre dans un débat qui va être important, c'est-à-dire est-ce qu'on est, dans la médecine humanitaire, les French doctors, au moment d'une urgence, tremblement de terre, guerre, inondation, enfin quelque chose comme ça de brutal, d'inattendu, et là il faut répondre rapidement, ou bien est-ce qu'on va avoir un rôle de relais entre cette urgence et puis une situation qu'on va retrouver chronique, qui n'est peut-être plus tout à fait de l'humanitaire, mais qui est de l'aide médicale. Henri-Jean Philippe, qu'est-ce que vous pensez de cette distinction?
En effet, il y a deux actions possibles pour les associations, les ONG, les associations humanitaires. Il y a l'aide au développement, et beaucoup d'associations maintenant sont impliquées dans l'aide au développement, c'est-à-dire pour les pays qui sont en difficulté sur le plan sanitaire, pour lesquels, en fait, et notamment dans mon domaine qui est le problème de la gynéco-obstétrique, on s'aperçoit que la priorité est la santé des femmes et des enfants. Dans la plupart des pays, la mortalité maternelle est considérable. Et ceci est lié pas uniquement aux infrastructures, mais à la formation, à l'encadrement, à la supervision. Donc c'est un des rôles des associations humanitaires maintenant, c'est d'accompagner les pays, nos collègues médecins, infirmiers, sages-femmes, dans cette qualité de la médecine. C'est l'aide au développement. Et l'aide d'urgence, en effet, l'aide d'urgence existe malheureusement et on voit que ce n'est pas fini. Il y a maintenant un peu plus d'une année, il y a eu Haïti, et puis on voit les guerres, les conflits continuent. Voilà, et donc il y a ces deux branches de l'humanitaire aujourd'hui.
Alors, il y a toujours eu un engagement, hein, je dirais, des médecins, mais qui était parfois, je dirais, dans une branche politique. Par exemple, il y a 400 médecins qui sont partis dans les brigades internationales. Il y a eu le célèbre Canadien Norman Bethune qui est parti faire la longue marche avec Mao Tse-Tung. Mais ils étaient plutôt au service d'une fraction, hein, je dirais, et non de toutes les victimes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce développement quand même important de la médecine dite humanitaire que vous représentez, est-ce qu'on peut toujours défendre l'idée d'une neutralité du médecin?
Moi, je pense qu'on cette neutralité, elle existe toujours, mais elle est difficile à garder. Pourquoi ? Parce que à côté de ces époques, on parlait de la mer de Chine, on parlait de l'Afghanistan, on parlait du Tchad également dans les années 90. Il y a eu une évolution des choses qui fait que pour garder cette neutralité, il y a une certaine difficulté. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une professionnalisation extraordinaire. Et il y a la question des moyens. Et pour avoir ces moyens, les associations, et notamment les grosses associations, ont des machines énormes. Et ces machines font appel...
Est-ce que ce n'est pas un peu trop bureaucratique ?
C'est bureaucratique sur un certain point. Et peut-être que lorsqu'on reparlera de la création de la chaîne de l'espoir, c'est qu'on a évité ça, mais quelque part on y revient. Parce que lorsque l'on s'attaque à des gros programmes comme nous parlions, les moyens sont considérables. Et avant, on avait accès à des fonds institutionnels, des fonds européens, et on sait parfaitement que ces fonds disparaissent comme neige au soleil, et qu'à ce moment-là, on fait appel à des moyens de fundraising modernes, les mailing, les multiples. Et donc, à ce moment-là, il faut des machines énormes. Et c'est un danger, mais c'est aussi une nécessité. Lorsqu'on s'attaque à des programmes hospitaliers, lorsqu'on s'attaque à des plans sur des camps de réfugiés, nous ne faisons plus de l'humanitaire, mais nous sommes des acteurs de santé. Et nous remplaçons quelque part les pouvoirs publics et ce qu'on appelait la coopération autrefois, qui est relativement, je dirais, absente par manque de moyens. Et si on abordait l'Afrique... On est maintenant totalement absent.
Mais est-ce que dans ces situations d'urgence, la Convention de Genève de 64, qui visait à mettre les médecins, les blouses blanches, enfin tout ce qui était blanc, hors du conflit, est-ce que c'est respecté aujourd'hui ?
C'est absolument pas respecté. Et on parlait tout à l'heure, Philippe en parlait, au niveau de la Syrie. C'est même, non seulement c'est pas respecté, mais je pense que très souvent, les médecins et les infirmières et les acteurs de santé sont souvent une cible.
C'est certain, le droit humanitaire international... est un concept. Est-ce que c'est en application aujourd'hui? Je ne crois pas dans les conflits. Et c'est un peu dommage. Alors, pour les associations humanitaires, on doit être impartial. Je crois que l'impartialité existe. C'est-à-dire qu'on traite tout le monde. Et ça, c'est important. C'est comme la base.
Est-ce que ce n'est pas l'impartialité au moment où vous êtes sur les fêtes? C'est-à-dire que toute personne qui se présente, vous n'allez pas faire un délit de faciès ou un délit de costume. Si la personne est blessée, on traite. Ça, c'est au niveau individuel. C'est l'acte médical, la générosité. Et c'est une révolution médicale que de penser à partir, à les soigner, je dirais, de cette façon. Maintenant, comment la façon dont on s'inscrit dans une histoire, est-ce qu'elle n'est pas automatiquement politique? Car vous n'avez pas les moyens d'arriver s'il n'y a pas, je dirais, justement une infrastructure. Ce que je racontais sur Managua et sur le Nicaragua, on ne peut pas arriver tout seul. Et là, c'est pareil. Quand vous êtes dans le camp de réfugiés, il faut bien que le camp existe.
Mais on est parti, en effet, avec les militaires dans le camp de réfugiés de Za'atari, en Jordanie. Donc ça, c'est évident qu'il y a il y a des liens avec les autorités, avec les institutions. Mais moi il me semble que le concept de neutralité, c'est-à-dire se taire quand on voit des horreurs, est en effet difficile. Mais dans certaines situations, il vaut mieux se taire et pouvoir soigner les gens. Il y a une autre dimension, on parle de dimension politique de la médecine et des humanitaires. Moi, il me semble qu'il y a une dimension politique des médecins qui devrait être beaucoup plus forte. Pour quelles raisons ?
Oui, Jean-Philippe, quel est...
Quels exemples? On sait, par exemple, que dans le monde, il y a à peu près 100 millions de femmes qui sont éliminées tous les ans. On sait que dans le monde, à peu près 100 millions de femmes sont excisées tous les ans. C'est-à-dire que ces actes, qui sont des actes politiques, préférer les filles aux garçons ou les garçons aux filles, condamner des femmes à avoir une intégrité qui disparaisse pour des raisons rituelles, ce qui n'est pas trop grave si ça n'atteint pas la santé. En tant que médecin, lorsqu'une altération des droits de l'homme conduit à une atteinte de la santé, le médecin doit se manifester. Nous sommes des médecins, nous ne sommes pas des hommes politiques. Un médecin, doit défendre la santé des femmes, à mon sens. Si la santé des femmes est altérée pour des raisons de non-accès aux droits de l'homme, parce que ce sont des femmes, je pense qu'on doit avancer. On doit se proclamer, on doit être derrière les femmes comme avocat des femmes.
Éric Gesson, vous êtes donc président de la chaîne de l'espoir et vous racontez dans votre livre Au cœur de l'espoir une histoire terrible, cette jeune femme qui est enceinte et qui va être césarisée de force, je dirais, pour éliminer cette situation de grossesse.
Ce déshonneur,
et qui ne va pas mourir alors qu'elle le devrait, puisqu'elle a été césarisée, bien sûr, hors d'un contexte médical. Vous avez vu cette jeune femme que vous avez pu prendre en charge?
Oui, c'est en effet une histoire abominable, mais une histoire malheureusement, comme vous le disiez tout de suite, assez classique. Cette jeune femme, est enceinte et en dehors des lois du mariage, et pour laver l'affront, c'est une césarienne à vif dans la cuisine, absolument dans une abomination la plus totale. Et donc moi je suis très intéressé sur ce que vous venez de dire. À travers cet exemple, je pense que la présence de médecins français est très importante. Elle a un caractère politique. Et moi, je pense dans le beau sens, dans le grand sens du terme politique. Comme d'ailleurs, et je reviens parce que sur ce que disait Bernard Kouchner, je pense que tout acte médical à l'étranger, dans des pays de conflit, dans des pays, est un acte politique. C'est-à-dire que nous participons à un dialogue qui est totalement inexistant. Souvent, les militaires sont bunkerisés, les diplomates ne parlent plus. Le médecin, l'infirmière, la sage-femme parlent avec nos confrères, avec les patients. Je pense qu'à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus réduits à la caricature que souvent des extrémismes font. Je pense que nous sommes un pont par le soin, mais aussi par le dialogue. Et ça, je crois que la médecine, et notamment la médecine française, a quelque chose d'unique, parce qu'elle est basée sur le dialogue, et nous avons un contact. Et beaucoup de ces pays réclament la médecine française. Et à travers l'histoire de cette jeune fille, je crois que vis-à-vis de son entourage,
car elle a été sauvée.
Elle a été sauvée, et l'histoire se termine merveilleusement.
Parce que comme un conte de fées, puisqu'elle va... épouser quelqu'un de l'entourage
de l'hôpital.
Mais qu'est-ce que vous répondez à des gens qui se posent un certain nombre de questions sur la médecine, justement sur le but politique que vous mettez avec un grand P et un beau P, on va dire, quelqu'un comme Ronnie Broman, qui se demande, se pose des questions, dit est-ce qu'on a soigné pour coloniser pendant un temps, les médecins militaires, c'était la pénétration de la colonisation, et est-ce que là, en faisant ce type d'action, est-ce qu'on n'a pas une vision de colonisation, alors peut-être de colonisation de certaines valeurs, peut-être de diffusion de certaines valeurs, mais qui ne sont pas forcément acceptées.
Je pense que le terme colonisation n'est même plus... Il est tellement inadapté. Notre seul but, c'est que, quelque part, une césarienne soit faite avec des règles. Ces règles, elles n'ont pas de frontières. L'asepsie n'a pas de frontières. Et je pense que le dialogue médical à travers un cas, que ce soit pour opérer un cœur, pour faire une césarienne ou opérer une fracture de jambe, transmettre les bons gestes n'a rien de colonisateur. C'est au contraire semer, comme disait le père Sérac, c'est semer dans l'univers et si vous voulez, à travers cet enseignement, faire un pont qui sera permettra de sauver d'autres enfants. Et je trouve que le terme colonisation, ça me paraît des débats qui sont complètement obsolètes à l'heure actuelle.
Mais quand on parle de corridor, par exemple, humanitaire, pour pouvoir justement faire cette asepsie et sauver des gens, vous percevez bien qu'il y a, pour faire corridor, il faut bien qu'on soit aidé et protégé. Et du coup, on rentre dans un engrenage politique, puisqu'il faut bien avoir une protection.
Bien sûr, mais moi, si vous voulez, je suis prêt à accepter beaucoup, je n'ai pas peur du terme, beaucoup de compromissions politiques, financières
ou
logistiques. Mais je vous dirais, par exemple, pour l'hôpital de Kaboul n'existerait pas sans les autorités françaises. L'ensemble du matériel qui équipe cet hôpital a été apporté par l'armée française sur les Transalles, et merci à eux. Et ça ne me... Non seulement ça ne me choque pas, mais je pense que nous sommes globalement en finalité dans les mêmes... dans le même but.
Henri-Jean Philippe, en tant que président de Gynécologie sans frontières, sur ce thème.
Sur ce thème de colonisation...
Enfin, oui. J'ai pris le mot fort. Hein,
mais... Non, mais si, c'est un terme extrêmement important, parce que ça reste un peu dans les esprits régulièrement. Et moi, je fais un petit retour à la conférence mondiale de Pékin de 1995, où l'ensemble des pays du monde se sont engagés pour défendre les droits des femmes. Pour défendre les droits des femmes avec l'accès à la santé, l'accès à la reproduction, l'accès à l'intégrité du corps, et ainsi de suite. Donc, c'est une dimension, c'est une dynamique internationale. Nous, en tant que médecins, je répète, notre rôle, c'est de faire de la médecine et par la médecine, défendre la santé des femmes. Et je crois que ce rôle est essentiel. Quand l'histoire que vient de raconter, que vous avez racontée tous les deux, pour cette jeune femme pour laquelle on a fait une césarienne
à vif pour effacer
une relation avec un homme, ceci n'est pas acceptable. Mais est-ce que vraiment les hommes avaient bien pris conscience de la souffrance que ça pouvait induire? Je ne suis pas certain. Moi, qui me suis beaucoup intéressé à l'excision, on s'aperçoit que lorsqu'on explique aux hommes, aux pères, que leur fille va souffrir parfois toute sa vie du fait de l'excision, eh bien, un bon nombre de ces pères, de ces femmes, de ces hommes font marche arrière. Donc je crois que mettre en avant la santé peut permettre...
Mais c'est bien difficile parce d'avancer. Éric Chesson, vous racontez aussi dans l'Afghanistan que pour le soin, par exemple, à un enfant, il faut que la mère l'accompagne pour faire le trajet, pour venir jusqu'à Kaboul, et qu'à ce moment-là, tout dépend de l'homme qui dit oui, elle peut y aller, non, elle ne peut pas y aller. Vous avez été confronté à cette opposition terrible.
Oui, tout à fait, à une situation absolument inimaginable. Un enfant qui a été opéré du cœur, qui est en réanimation, encore en phase extrêmement difficile, et la femme doit rentrer et parce que le mari l'exige et l'enfant est retiré de réanimation de façon mettant en péril la vie de l'enfant. Et donc, c'est extrêmement difficile. Mais juste pour terminer sur ce très important sujet que nous abordions, moi, je pense que, par exemple, si on parlait de Kaboul, je pense que tout patient ou toute infirmière qui est formée à l'hôpital de Kaboul devient totalement imperméable au dialogue moyenâgeux des talibans, parce qu'elle a vu que nous ne sommes pas ce que les caricatures que l'on fait de nous. Et je pense que ce dialogue avec une femme, avec un père, quelque part, au bout d'un moment, ça fonctionne.
Mais parce que vous avez une pugnacité tout à fait remarquable, et on reviendra dans un instant sur la chaîne de l'espoir, enfin sur vos deux organisations. Et peut-être pour planter le décor de cette fin de première partie, quelques mots sur l'Afghanistan. Est-ce que vous avez été à Bandi Amir, à Bamiyan?
Bien sûr.
Et qu'est-ce que vous en ressentez?
Si vous voulez, alors, sur l'Afghanistan proprement dit, je pense que toute personne qui a été en Afghanistan n'en revient pas identique. Parce que ce pays, lorsque vous le voyez, lorsque vous y êtes, lorsque déjà vous arrivez en avion, vous avez ces montagnes et ce piqué sur Kaboul, c'est un coup de grisou dans la tête. Ces gens sont absolument inouïs. Ils sont à l'image de leur pays, ils sont minérales. Il y a une espèce de beauté absolument extraordinaire.
Surtout les hommes se mettent toujours du col sur
les
yeux.
Un tout petit peu, oui. Je vois que vous...
J'y suis allé il y a très longtemps, en 70.
Et dans les années 70, et vous l'avez vu, les femmes étaient en jean, c'était totalement ouvert. Donc, vous savez, nous, on a envoyé à peu près 1700 personnes qui, lorsqu'elles sont parties, avaient peur, étaient terrorisées. Le père, la mère, la femme, les enfants ne voulaient pas qu'il y aille. Tous, à peu près 90%, lorsqu'ils reviennent, veulent tous y retourner. Parce que il y a une...
Éric Chesson, vous êtes un amoureux de l'Afghanistan et je vous comprends. Mais juste peut-être pour dire aux auditeurs, Bandi Amir, c'est une succession de lacs bleus.
D'un bleu clin. Oui, un bleu nuageux, un bleu laiteux, un bleu absolument incroyable.
Moi, je le trouvais plus fort, plus sombre, plus profond.
Oui, mais il a des... Un peintre nous donnerait le...
Voilà, et surtout, non mais c'est vrai, ce sont on passe de lac en lac, les lacs tombent les uns dans les autres, c'est absolument magnifique, et Bamiyan, c'est ce fameux endroit où il y a ces Bouddhas qui sont dans la falaise, je veux dire, de 40 à 50 mètres, et qui sont d'une beauté avec effectivement ces paysans, je dirais, qui passent avec leurs troupeaux et leurs cols sur les yeux, moi ça m'avait frappé.
Que l'UNESCO ne peut pas... On ne peut pas reconstruire ces Bouddhas.
Alors l'histoire elle est terrible, parce que c'est vrai qu'en 79, en fin décembre, c'est les troupes soviétiques qui rentrent. Et pour ceux qui ont connu l'Afghanistan en 70, 72 et après 79, le paysage va plutôt changer, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre première mission va être en 80, très vite, fait qu'il y a l'occupation soviétique.
Les soviétiques sont rentrés en décembre et j'y pars en février. C'est la première mission, c'est la mission fondatrice de Médecins du Monde, où on s'est tous cotisés pour payer les billets par Aeroflot.
Et là, vous allez faire un cheminement jour et nuit, oui. Absolument... c'est un roman, quoi.
Oui.
D'ailleurs, vous avez très bien écrit. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Je conseille vraiment de lire cette aventure des temps modernes. Mu par cette volonté de faire quelque chose, voilà. Et puis les talibans prennent le pouvoir en 96, juste pour resituer un peu, pendant 5 ans, jusqu'en 2001. Et puis vous connaissez là dans une infirmière anglaise. Alors j'ai des souvenirs, moi, d'infirmières anglaises un peu partout dans le monde qui ont une attitude absolument extraordinaire. Moi, je me rappelle à Managua, au moment du tremblement de terre, on arrivait et puis on était précipité sur un hôpital qui était branlant, parce que évidemment, le tremblement de terre, donc on sortait tout le monde, les lits étaient à l'extérieur, on était complètement acharné à opérer, à soigner comme ça à l'extérieur. Puis à un moment donné, on me tape sur l'épaule, je me retourne, ça faisait une journée qu'on travaillait comme ça, comme des fous, puis une infirmière anglaise qui me dit « Docteur, it's tea time ». Voilà. Donc cette espèce de recul est assez extraordinaire, hein, parce que je crois que vous l'avez retrouvé vous aussi avec vos infirmières anglaises, enfin une infirmière anglaise surtout, qui va être extraordinairement présente dans l'aventure de la chaîne de l'espoir à Kaboul, donc amoureux de l'Afghanistan et de la chaîne de l'espoir sur laquelle nous allons revenir dans un instant et avec Éric Chesson et puis Henri-Jean Philippe sur l'aide humanitaire. Révolution médicale, René Friedman reçoit aujourd'hui Henri-Jean Philippe, qui est président de Gynécologie sans frontières et qui, je dirais, œuvre également au niveau du collège, la commission humanitaire du collège des gynéco-obstétriciens français, et puis Éric Chesson, qui est président de la chaîne de l'espoir. Alors, là, on a vu, donc il y a eu plusieurs organisations, je dirais Médecins sans frontières, Médecins du monde, Aide médicale internationale, mais la chaîne de l'espoir, c'est très particulier. Racontez-nous, Éric Chesson, comment
c'est
ça s'est fait.
C'est très particulier parce que, d'abord, on est apparu suite à une scission profondément amicale. Nous sommes partis de Médecins du monde, car nous étions un groupe de chirurgiens anesthésistes et bien entendu Alain Deloche, père fondateur, dans les grands noms, Bernard Kouchner, Alain Deloche, Ray Camier, ce sont des... Et l'idée était simple, c'était lorsqu'on voyait un enfant...
Vous étiez des chirurgiens cardiaques,
thoraciques. Chirurgiens cardiaques aussi, et plasticiens et orthopédistes. Et lorsqu'on voyait un enfant dans un pays en difficulté, on se disait, on serait à Paris, cet enfant serait sauvé. Alors, le premier réflexe a été de le faire venir à Paris. On en a fait venir 100, 200, 300, 1000. Et puis ensuite, bien entendu, le réflexe a été de les soigner.
1000 enfants, vous avez pu faire venir ?
Oh, beaucoup plus que ça. Sur les 10 ans, on doit être à... je pense qu'on n'est pas loin des 10 000.
C'est énorme.
C'est énorme, avec famille d'accueil, avec une organisation.
Et retour,
bien entendu. Il n'y a jamais eu un enfant qui est resté. Et bien entendu, sélection très précise pour que ça soit un succès thérapeutique, parce que surtout pas de fausses promesses. Et ensuite, la logique était d'aller les soigner sur place, donc on a commencé à faire des missions.
Et objectivement, la chaîne de l'espoir, Éric Chesson, se crée en 88, c'est ça ?
Exactement, en 88.
Et donc, vous allez aller dans plusieurs pays, où vous allez pouvoir agir.
D'abord, on a beaucoup commencé au sud-est, dans le sud-est asiatique, Vietnam,
la
Cambodge.
La suite de l'île de Lumière, peut-être ?
Exactement, on avait déjà
des liens
là-bas. Et il est apparu très vite, puisqu'il s'agit souvent de pathologies extrêmement graves, cardiaques, neurochirurgicales, qui font un plateau technique. Et donc, très rapidement, nous avons commencé à construire des hôpitaux. Le premier a été au Vietnam, avec le professeur Carpentier. Le deuxième a été au Cambodge.
Grand chirurgien cardiaque.
Ensuite, au Mozambique, et nous avons commencé à... Donc, dupliquer ces hôpitaux pour pouvoir opérer sur place et surtout former nos collègues.
Alors là votre volonté, elle est claire, elle est de créer des structures sur place et d'aider à la transmission, la formation, pour que ces structures soient reprises par d'autres.
Si vous voulez, le grand succès, c'est comme maintenant, par exemple, au Cambodge, nos amis cambodgiens opèrent seuls. Ils opèrent seuls, à cœur ouvert.
Voilà, alors de loin, on se dit, mais attends, dans ces pays-là, on peut opérer à cœur ouvert?
Eh bien, vous savez, ça fait partie du défi. Alors, bien entendu, il y a eu des grands débats là-dessus. C'est, avec le même argent, on pourrait vacciner...
ça, d'accord.
Ça, c'est le débat. C'est
le débat,
mais
oui, voilà.
Bon, chacun fait ce qu'il
faire autre chose de l'argent qui est fait pour quelque chose.
Oui, voilà, exactement. Sûr. Et donc, nous avons continué comme ça. Est arrivé le grand projet Kaboul qui a été dans les années...
Mais alors, qu'est-ce que c'est? Vous parlez de Éric Chesson, des trois muses.
Les trois muses, c'est
présidé à la création de la chaîne.
Juste un tout petit rappel, 11 septembre 2001, très vite on identifie l'Afghanistan, les talibans, une offensive extrêmement brève sur l'Afghanistan, les talibans repartent dans leur zone tribale et Kaboul est libéré. Et donc nous y allons, moi j'y vais à ce moment-là avec le professeur Jean de l'hôpital Necker. Et nous constatons un état sanitaire, mais qui est tellement effroyable qu'il faut vitrier sans frontières, plombier sans frontières, menuisier. C'est impensable. Et la seule solution, et on se dit, il faut reconstruire. Et à cette époque-là, il y avait Marine Jacquemin, grande reportrice à TF1, qui avait beaucoup bourlingué dans cette région et qui avait identifié le drame de ce pays. Et donc, elle a été, avec Muriel Robin, qui avait été aussi très sensibilisée par des reportages faits par Marine Jacquemin, et également Claire Chazal, et TF1, qui nous a beaucoup aidés. On a fait une grande campagne, au fin 2001 et 2002, pour construire un hôpital à Kaboul.
Et la première pierre est posée en 2003 et l'inauguration en 2006.
Oui.
Hein, voilà. Avec des gens, bien sûr, tout politiques, puisque Mme Chirac va être là pour l'inauguration. D'ailleurs, elle a aussi inauguré la maternité de Clamart, où
voilà,
je travaillais. Elle était très axée. Et puis, aujourd'hui, Fabius soutient le projet que Kouchner a, bien sûr, lorsqu'il
bien
était
sûr.
Ministre, développé et soutenu, cette tranche sur la maternité sur laquelle nous allons aller. Est-ce qu'à Gynécologie sans frontières, vous avez des muses, à part les femmes dont vous vous occupez?
Non, on n'a pas de muse.
Mais ça va venir.
Ça va venir parce qu'on pourra construire des maternités comme ça dans différents pays. Et je sais que dans le monde entier,
mais de toute façon,
il y a besoin de muse.
Voilà, vous allez vous retrouver, puisque la maternité dont on va parler, qui est comme ça ce projet un peu fou, il a besoin de gynécologues, de sages-femmes. Et donc, Gynécologie sans frontières, que vous présidez, Henri-Jean-Philippe, va participer par ses membres au projet de la chaîne de l'espoir. Donc, vous avez construit un hôpital pédiatrique à Kaboul, contre toute attente, il faut bien le dire. Il marche, il a des patientes, il a une médecine de haute qualité. Mais comment ça s'est fait? Qui participe à ça?
Ça s'est fait parce que je pense que, quelque part, la médecine française a quelque chose de très particulier. Elle a quelque chose de très particulier parce que, d'abord, elle est demandée et il y a une énergie, une...
Il y a une tradition aussi.
Il y a une tradition.
Les écoles de Toulouse, les écoles de Lyon avaient des
contacts. L'école de Lyon, les hospices civils de Lyon ont fait énormément pour la formation des médecins afghans dans les années 70. Et si vous voulez, on a écrit une belle histoire, et probablement qu'il y avait une belle étoile au-dessus de ce projet. On a réussi à mobiliser énormément de gens, énormément d'énergie. Et cet hôpital a été fait. Il a été fait volontairement aux critères d'un hôpital occidental 2010.
Mais pour ça, un hôpital, il faut des matériaux. Ça coûte
oui, mais on a eu la chance, de rencontrer Martin Bouygues, il a été extrêmement séduit par ce projet, et il a mis toute l'énergie de l'entreprise Bouygues et également des fonds personnels, des hauteurs très importantes, pour construire cet hôpital qui a coûté 6 millions d'euros et 3 millions pour l'équiper. Et nous avons mis dans cet hôpital, vous vous rendez compte, la première et la seule réanimation d'Afghanistan. Vous savez, en Afghanistan, en 2006, il y avait deux anesthésistes pour 30 millions d'habitants. Donc c'est pour vous dire le niveau de délabrement après ces 30 ans de guerre.
Mais ça ne crée pas des tensions, ça, même de quelques médecins qui existent, que de voir un bel hôpital comme ça.
Non, parce que ça pourrait en effet, mais nous sommes mitoyens de la faculté de médecine et nous formons énormément de jeunes internes. Donc soigner, mais surtout former les médecins, mais former les étudiants, former les sages-femmes bientôt, les infirmières, les réanimateurs. Il n'y avait aucun réanimateur en Afghanistan. Et donc, cet hôpital est un endroit où arrivent beaucoup d'enfants qui arrivent après des errances très longues. C'est le seul endroit ou alors il faudrait qu'ils partent à l'étranger. Bien entendu, ils n'en ont pas les moyens.
Et alors, la France va y participer officiellement ?
Elle y participe largement, depuis le début. D'ailleurs,
9 millions d'euros.
Oui, 9 millions d'euros pour construire la maternité.
Et puis, vous rencontrez un personnage fascinant, qui est l'Aga Khan.
Bien sûr. On connaît très peu l'Aga Khan. Vous parlez de l'Aga Khan en France, on va vous dire Rita Hayworth, c'est les chevaux. Mais l'Aga Khan, c'est un des plus grands mécènes au monde. Il a 14 hôpitaux dans le monde, et ce sont des hôpitaux toujours à but non lucratif. Et à chaque fois, ces hôpitaux sont basés sur la qualité, pour les formations des médecins, mais aussi pour le soin aux patients, avec un système qu'on appelle de welfare, pour traiter que les riches paye pour les pauvres, le système Robin des Bois.
Donc c'est pas réservé à la petite élite qui aurait un peu d'argent ?
Non, et puis c'est pas uniquement pour les ismaéliens. Et donc,
qui est la religion de l'Aga Khan.
Et donc nous avons eu la chance.
Qui est le chef des ismaéliens.
Oui, et nous avons eu la chance de passer ce partenariat avec l'Aga Khan. Et pourquoi l'Aga Khan est passé par la chaîne de l'espoir ? Vous savez, c'est pas pour la chaîne de l'espoir, mais c'est pour avoir accès à la médecine française, qui dans le monde est une référence de qualité, tant dans sa modernité, mais aussi dans son côté humanitaire, dans son côté les fameux French Doctors. Et avec ça, nous avons pu faire tourner cet hôpital, l'Aga Khan ayant la responsabilité, je dirais, de la gestion et du paiement des salaires, et nous étant...
Visiblement très strict. Hein.
C'est
pas laxiste. Hein.
C'est pas du tout laxiste.
J'ai vu que vous faisiez des visioconférences entre la chaîne de l'espoir et l'hôpital ou le groupe de l'Aga Khan, et ça a l'air assez...
Oui, nous faisons beaucoup de visioconférences, et notamment avec d'autres zones d'Afghanistan, parce que beaucoup de zones sont inaccessibles.
Allez, en un mot, est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette gestion, peut-être pour améliorer la situation en France dans certains...
Je pense, j'ai souvent demandé à Son Altesse s'il pouvait nous donner des conseils pour gérer l'assistance publique.
Voilà, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais promis, on y reviendra. Alors là, en région Philippe, vous êtes actuellement, donc vous avez une mission forte en Jordanie, dans ce camp de réfugiés, et la situation en Syrie, elle est connue, là, on ne va pas s'étendre, l'Afghanistan, voilà, il y a aussi de très beaux endroits d'ailleurs en Syrie, Pamir est un endroit fantastique, la Damas a un musée extraordinaire. Mais là, c'est pas drôle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de blessés. Et donc, il y a un camp de réfugiés. Et on vous a demandé, comment ça s'est passé, qu'on ait demandé à Gynécologie Sans Frontières de venir faire une mission.
Eh bien, en fait, lorsque les Syriens, une partie des réfugiés, sont déplacés vers l'Irak, le Liban, la Turquie et vers la Jordanie, en Jordanie, un camp est identifié par les Jordaniens à Za'atari, qui est à 15 km dans le nord de la Jordanie.
Donc proche de la frontière.
Oui, très proche de la frontière, 15 km de la frontière.
D'accord.
Et au niveau de ce camp, au bout d'une semaine, il y avait 4 à 5 000 réfugiés. Et donc immédiatement, les médecins militaires français sont partis pour mettre en place un hôpital pour prendre en charge les blessés. Et en réalité, plus de 70% des personnes qui venaient étaient des femmes et des enfants. Donc la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères nous a contactés en nous demandant si nous pouvions contribuer à la prise en charge des femmes enceintes et des femmes en général et des enfants. Donc il y a une réunion le 8-9 août et le lendemain, donc on a accepté le principe de partir avec un hôpital de campagne, donc 3 tentes de 50 mètres carrés avec des médecins et des sages-femmes et un logisticien.
Vous avez été ?
J'y suis pas allé personnellement, le secrétaire général qui est parti, qui est le docteur Noël Bessière. Et depuis, ça fonctionne. Donc depuis le 25 août, le temps que l'hôpital aille sur place. Et on est passé en un mois de 4 000 réfugiés à 40 000 réfugiés.
Mais alors, qu'est-ce que vous faites là-bas ? La mission, c'est quoi ?
Alors,
parce que vous n'avez pas construit de maternité.
On n'a pas construit de maternité. On a construit une maternité en plastique, en sous-tente. Et donc, on a une activité de consultation, une activité d'accouchement.
Et comment ça se passe, homme-femme ?
Alors, le personnel est un personnel féminin.
D'accord.
C'est obligatoire. Alors, il y a évidemment des médecins, ne serait-ce pour des questions un peu de sécurité, il nous a semblé préférable qu'il y ait des médecins qui accompagnent plutôt des sages-femmes ou des gynécologues-femmes, et qui ont plutôt un rôle de coordonnateur, en fait, de chef de mission avec les instances internationales.
Donc, vous faites des consultations, il y a des accouchements qui se passent.
Des consultations, des accouchements qui ont lieu dans le camp de réfugiés. Je dis donc qu'il y a maintenant plus de 20 000 femmes.
Mmh.
Il y a des familles nombreuses, comme vous le savez. Donc tous les jours, on attend, en fait, on fait des consultations. Il y a aussi malheureusement des problèmes d'agression sexuelle qui commencent à apparaître, donc, comme dans tout camp de réfugiés. Donc ça sera notre mission, qui est la mission la plus compliquée.
Oui, sûrement parce que problème de langue aussi, de traduction.
Alors, on a la chance d'avoir quelques sages-femmes, quelques médecins qui vont partir, qui parlent l'arabe, donc ça sera un gros soutien, sinon les traducteurs sur place.
Qui sont avec vous. Et vous avez, donc ça c'est disons l'actualité, mais vous avez d'autres missions, Haïti en particulier ?
On a une mission Haïti, on a deux missions Haïti, une à Port-au-Prince, une à Jérémy, pour l'appui. C'est l'aide au développement cette fois-ci, on revient à l'aide au développement, quoi. Et juste, je voudrais revenir simplement sur Kaboul, parce que je trouve que ce projet Kaboul est particulièrement important pour un chiffre. Il y a une femme sur 50 qui meurt en accouchant à Kaboul. En France,
en Afghanistan, peut-être.
En Afghanistan. Et à Kaboul, c'est peut-être plus, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous parliez des dépenses faites pour la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire. Là, c'est une mission de santé publique. C'est une mission fondamentale. Et je crois que cet hôpital aura une dimension humanitaire essentielle.
Donc là, il y a un projet sur lequel on va essayer de mobiliser, de remobiliser, avec Éric Chesson et puis Henri-Jean Philippe et moi-même. Donc d'abord des participants, des sages-femmes, des infirmières, des médecins, tous ceux qui écoutent cette émission, qui ont la fibre, qui vibrent de l'aide médicale, peuvent rejoindre ces deux associations. Et donc ce projet, encore une fois, on a du mal à se rendre compte que l'hôpital pédiatrique est construit, il est à la norme ISO 9001, c'est-à-dire qu'il est vraiment nickel chrome, quoi. Il est vraiment très beau et très, très bien structuré, et que le projet de maternité est identique au point de vue hauteur et de qualité. Alors, l'objectif là, il est clair, Éric Chesson, c'est de former, parce que, encore une fois, ce que vous avez fait en pédiatrie et ce que nous voulons faire, je dirais, en gynécologie obstétrique, c'est aider à la formation pour que le relais soit pris au plus vite dans de meilleures conditions, tout en restant en contact, mais peut-être à distance, parfois en y étant. Mais c'est bien ça l'objectif.
Bien sûr, l'objectif total, c'est d'identifier probablement 2, 3 ou 4 ans de formation, d'accompagnement auprès de nos confrères gynécologues, obstétriciens, afghans et sages-femmes, et au fur et à mesure, bien sûr, leur laisser les rênes. Vous savez, pendant qu'on parle tout de suite, le docteur Najib Oulabina opère à cœur ouvert, c'est un afghan que nous avons formé, il opère tout seul ce matin, c'est donc le but.
Oui, ça c'est je crois que là on est dans un cadre bien défini, bien cadré, avec un objectif clair, et je crois que ça mobilise et ça donne vraiment envie. Alors il y a d'autres actions bien sûr dans le domaine de la maternité. D'ailleurs un jour on reviendra sur le problème de la reproduction, bien sûr qui m'est cher, parce que c'est aussi une... alors là on n'y est pas du tout, hein, c'est pas du tout l'actualité, mais si on pense un peu à ces problèmes d'être mère dans les pays en voie de développement, c'est quelque chose de fondamental, parce que la femme qui n'est pas mère n'est pas intégrée correctement dans le clan familial. Elle est souvent exclue et vit des situations dramatiques. Mais voilà, donc ça c'est une autre action. Mais il y a d'autres projets, comme celui de Bernard Kouchner, qui n'a pas désarmé et qui continue avec son groupe Réunir. Oui. Et qui continue dans le bidonville de Corenti à Conakry à proposer une maternité qui est on en est au deuxième étage, je crois qu'il y a trois étages en tout, donc elle est en train de se construire. D'ailleurs, nous recevons à l'hôpital Foch, où maintenant je travaille avec le professeur Ayoubi, nous recevons Bitu Bamba, qui est la femme obstétricienne chargée de conduire cette maternité, pour faire une formation complémentaire. Et donc voilà, on est vraiment, je crois, dans cette volonté d'une médecine, d'une aide de médecine, de passage de témoins et de reprise par les gens eux-mêmes, là où ils sont, pour pouvoir travailler avec la population. Est-ce que vous êtes dans ce mood, dans ce sentiment ?
Moi, je crois que c'est extrêmement important, parce que, vous voyez, il y a bien sûr le soin, mais la formation est quelque chose de fondamental. Et si on pouvait lancer un appel, c'est de demander aux sages-femmes, gynécos, obstétriciens, anesthésistes, réanimateurs, néonatos qui écoutent cette émission, de nous contacter les uns les autres pour rejoindre ce projet.
Et mais c'est pas une maternité standard.
Ah non, c'est une maternité
vous voulez faire là-bas une maternité, ce qu'on dit en France, de niveau 3, c'est-à-dire de type 3, comme celle que vous dirigez, hein, Jean-Philippe, à Nantes. Donc c'est une vision importante, mais qui aussi...
Elle peut permettre de s'aimer ensuite.
Voilà, ça c'est une thématique qui vous est chère, Jean-Philippe, celle des s'aimer... Dans le plus loin possible, ouais. Malgré l'état de guerre.
Oui, alors c'est vrai que pour l'Afghanistan, le sujet est compliqué. Mais si on a envie d'avoir une action sur un pays, l'objectif c'est d'être au plus proche de la population, donc c'est-à-dire au niveau des hôpitaux, des dispensaires, des districts ou provinciaux. Et nous, on essaie de mettre en place des formations à ce qu'on appelle les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, qui sont à destination des infirmières sages-femmes ou des infirmières, de telle sorte à améliorer la qualité de la prise en charge. Et dans chaque province, pratiquement, et ça, c'est des organisations qui ont été mises en place par le PNUA, par l'OMS, il y a une régulation, c'est-à-dire par province, il y a un hôpital qui prend en charge les soins de base, un hôpital qui prend en charge les soins obstétricaux d'urgence complets, c'est-à-dire césarienne, ainsi de suite. Donc, il faut former les infirmières pour la base, il faut former les médecins généralistes, qui sont des médecins généralistes, qui prennent en charge la chirurgie d'urgence et l'obstétrique d'urgence.
Alors, il y a une pathologie qui est très particulière, hein, c'est l'histoire des dégâts périnéaux, c'est-à-dire des fistules. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quelques équipes qui forment d'autres chirurgiens à réparer ces dégâts, je dirais, d'un accouchement qui était mal proportionné, on va dire.
Et ben, c'est un petit succès que nous avons eu, parce qu'au Burundi, depuis maintenant 5 ans, on a mis en place des missions chirurgicales de formation de chirurgiens sur place. Et le succès n'est pas la prise en charge. En fait, le succès, c'est que la démarche politique, c'est-à-dire dans ce pays, je crois que c'est le seul pays au monde qui a pris en charge gratuitement les frais pour le traitement des fistules obstétricales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une conviction des autorités politiques qu'il fallait prendre en charge ces femmes, des femmes qui avaient une souffrance terrible. Vous savez qu'au Burundi, on n'a pas les femmes qui ont une fistule, les femmes de l'arrière-cour. Donc, c'est les femmes qui sont exclues de la société.
Il y a beaucoup d'exclusions dont il faut qu'on se rende compte. Mais finalement, dans toutes vos actions, est-ce que vous n'êtes pas confronté aussi à... Vous êtes confronté au milieu culturel ambiant et à cette forme de fatalisme qui existe et qui fait que vous devez lutter contre le mektoub, le destin.
Bien sûr, c'est même parfois c'est bouleversant, c'est choquant, et ça peut, à la limite, on peut être à certaines consultations en colère de voir des enfants qui sont en bout d'asphyxie, et on sait à l'évidence ce qu'il fallait faire. Ils sont atteints d'une pathologie cardiaque qui aurait été facilement curable. Mais et c'est toujours, je pense, par le dialogue avec nos confrères, qu'ils soient au Burundi, qu'ils soient en Afghanistan et autres, que nous allons faire évoluer les choses, non pas dans un esprit d'imposer ce que nous pensons, mais probablement de leur montrer qu'il y a des solutions, de leur montrer qu'il y a une faisabilité technique, et si on leur apporte le plateau technique le permettant, très rapidement, je pense que ce dialogue aboutira à un changement des mentalités.
Et vous savez, j'avais été, moi, quand j'étais en Afghanistan, pas du tout pour une mission médicale, mais je me trouve en Afghanistan, j'ai une expérience qui renvoie à ce que nous discutons. Il y avait un homme que je vois tomber de son âne dans la campagne, et en l'examinant, c'est une péritonite manifeste, une grande péritonite. Et donc, il sortait du petit dispensaire. Et donc, je le ramène tant bien que mal dans le dispensaire, et je dis, il faut absolument l'opérer. Ça s'est terminé au poste de police, parce que il fallait pas l'opérer, parce que si on l'opérait, il risquait de mourir dans le dispensaire. Et donc, ce serait le mauvais œil sur ce dispensaire, et on pouvait pas le faire. Et bien sûr, il y avait pas d'argent pour transporter cet homme à la ville. Ça a été un drame pour moi, je dirais, sans doute une des causes d'ailleurs de l'engagement que vous avez, que j'ai eu et que j'ai. Mais c'est quand même une grosse difficulté, qui est celle de vouloir faire de la médecine en donnant des informations, mais qui tiennent compte aussi de là où en sont les gens. Et ça, je pense que la formation de tous ceux qui vont nous appeler après cette émission pour pouvoir y aller, il va falloir aussi donner une préparation.
C'est un peu dans ce sens-là et pour cette raison que nous, maintenant, depuis une dizaine d'années, nous faisions des formations en gynécologie obstétrique humanitaire pour que les personnes qui vont partir en mission prennent bien conscience, c'est-à-dire à peu près une semaine, de la situation. De la situation dans laquelle ils sont confrontés, des modalités d'expression, de conviction, mais en respectant la culture à chaque fois. Donc ce n'est pas si simple. On a envie d'avancer très vite, et parfois en avançant vite, on recule. Donc c'est ça qui est intéressant, je crois.
Donc dans le domaine maternité, donc une action, je dirais, un peu brûlante et urgente, qui est celle des réfugiés syriens, les Syriennes, qui sont en Jordanie, pour lesquelles Gynécologie sans frontières s'occupe. Et puis une mission, je dirais, qui s'inscrit dans le prolongement de l'hôpital pédiatrique de Kaboul, la construction d'une maternité, pour laquelle, pendant le temps de cette construction, puisque la première pierre, je crois, vous y allez...
Mi-octobre.
Voilà, mi-octobre, et qui a, comme on l'a dit en commençant cette émission, il y a déjà un obstétricien et une sage-femme qui coordonnent d'ailleurs l'action, je dirais, de maternité, qui va aller sur place. Et donc, il y aura un gros travail de formation des jeunes médecins afghans, n'est-ce pas, des sages-femmes. Et donc, on aura besoin de les accueillir en stage, d'aller là-bas pour les former au mieux de ce que l'on sait faire. Et c'est un échange et un dialogue, pour reprendre ce que disait Éric Chesson et Henri-Jean Philippe, c'est un dialogue médical extrêmement important. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Denet, réalisée par Laetitia Coïa, avec Philippe Palares à la prise de son. Vous pouvez podcaster cette émission durant une année et la réécouter pendant 1000 jours sur le site internet de France Culture, sur www.franceculture.fr. Demain, à 14h, retrouvez Planète Terre de Sylvain Kahn, puis à 14h30, le Salon Noir de Vincent Charpentier. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une semaine, comme tous les mardis, dans Révolution Médicale, cette fois-ci avec Jean-Claude Amezen, et nous parlerons de la place de l'éthique dans la pratique médicale. Dans quelques instants, Tout un monde de Marie-Hélène Faïssé.
Thank you.